Phil PM. Commentaires.
Les cours vont être disponibles. Le test de français va être obligatoire. Donc, je vois pas pourquoi les nouveaux arrivants ne suivraient pas les cours de français.
Voici David Hurtel.
Salut David.
Salut Dan.
C'est une belle journée pour rester enfermé dans un poste de radio.
Mais c'est ensoleillé ici.
Oui, oui, et puis de toute façon, si on finit assez tôt, on ne se plaindra pas. On est heureux d'être au monde. Alors, la députée caquiste, Claire Samson, dit que la francisation doit être obligatoire pour les immigrants. Cette députée-là, c'est pas celle qui avait, comme je dirais poliment, piqué une petite crise de colère parce qu'elle n'était pas ministre.
Oui, en effet. Claire Samson est députée d'Iberville, sur la rive sud de Montréal, depuis plusieurs mandats. Elle était très active dans l'opposition lors du dernier mandat. Et lorsque François Legault a composé son conseil des ministres, elle n'en faisait pas partie et elle a clairement exprimé sa déception majeure. De ne pas faire partie du Conseil des ministres. Ça fait
je reconnais l'avocat, toi, tu fais attention.
Non, mais elle était vraiment pas de bonne humeur. Alors là, on n'en a plus entendu parler parce que elle a eu des enjeux de santé. Et là, ça faisait plusieurs mois qu'on n'en avait pas entendu parler. Et en 2016, elle avait fait un rapport, encore lorsqu'elle était députée de l'opposition, recommandant que le français, les cours de français soient obligatoires pour les nouveaux arrivants, pour les immigrants. Parce que présentement, et depuis toujours là, au Québec, le français, les cours de français ne sont pas obligatoires. Quand tu es un immigrant, on t'offre des cours de français, que ce soit au travail, que ce soit dans des organismes de francisation, quoi que ce soit, mais on ne te force pas. Claire Samson dit dans son rapport, il faut des cours de français obligatoires, il faut que ça soit des cours de français dès que tu arrives au Québec, et il faut que ça soit là, de 30 à 72 semaines. Donc, là, plus de 6 mois jusqu'à presque un an et demi.
Mais pour que ce soit vraiment obligatoire, faut que tu leur interdises de les échouer aussi.
Voilà. Et ça amène toute une série de questions légales. Puis c'est pour ça que la loi 101 et toute la législation en matière d'immigration, que ce soit sur le Parti québécois ou le Parti libéral, n'a jamais forcé.
Es-tu pro-loi 101?
Ben oui, je suis pro-loi 101. La loi 101, je veux dire, particulièrement en éducation, les enfants de la loi 101, moi, je trouve ça extraordinaire, ce que ça a eu comme effet transformateur pour le Québec.
Ça a été énorme.
Ça a été énorme, puis on voit les effets tous les jours. Je le vois, qu'on aille dans Saint-Michel, qu'on aille partout, les quartiers d'accueil d'immigration, notamment à Montréal. Moi, je trouve que la loi 101 était un geste extraordinaire. Le fait est, par contre, que notre législation en matière linguistique ne force pas les immigrants à suivre des cours de français. Alors, c'est fortement, évidemment, suggéré. Puis quand on se promène à travers le Québec, il n'y a pas d'obligation comme telle. Là, ce qui est aussi très choquant dans ça, c'est que c'est une députée du parti au pouvoir là qui fait une sortie un dimanche. Puis ça, là, en politique, les sorties le dimanche, là, c'est favorisé. Parce que justement, surtout l'été, les journalistes n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Puis faire une sortie le dimanche, c'est calculé. Là. C'est de dire, bon, ben moi, je veux une attention médiatique. Et elle
je veux
sort,
les spots sur moi aujourd'hui.
Je veux les spots sur moi, je donne de l'information et là, je dis, mon parti, je suis député, qui est au gouvernement, ne va pas assez loin parce que le ministre de l'Immigration, Simon Jolin-Barrette, annonce vendredi dernier des investissements de 70 millions de dollars en francisation. C'est une grosse nouvelle. Déjà que le ministre de l'Éducation lui avait un peu scié les jambes en postant sa photo avec Malala, puis là, toute la controverse autour de comment ça se fait qu'il prenne une photo avec une femme voilée. Mais là, on a une députée qui vient dire que son propre parti, son propre gouvernement ne va pas assez loin en francisation. Alors là, deux choses. Un, il y a le débat. Est-ce qu'on devrait forcer les immigrants à suivre des cours de français? Mais deuxièmement, ça montre qu'au niveau de, à l'interne, au sein du caucus de la CAQ, il y a encore des gros problèmes à régler entre Mme Samson et le gouvernement Legault.
Ben, c'est parce qu'elle occupe autant d'espace médiatique qu'un ministre. Là.
Ben, même plus. Oui. Aujourd'hui, elle occupe tout l'espace, alors ceci que la CAQ parlait c'est... d'une bonne nouvelle.
Oui, mais ceci dit, c'est une question qu'on a le droit de se poser. Et puis, moi, d'ailleurs, j'aimerais ça entendre tout le monde à propos de cette question-là. Est-ce que la francisation doit être obligatoire pour tous les immigrants. Vous pouvez nous appeler au 514-790-9850 ou au 1-866-790-9850 pour parler à moi ou à David. Si vous êtes un péquiste, un libéral, vous avez le droit de parler pareil. Moi, j'endure un libéral site. Moi, il m'endure aussi.
Mais Dan, il faut comprendre que 30 à 72 semaines de cours, dès que tu arrives, là, c'est tout un bail. Là.
Ben, c'est parce que là, quand tu arrives dans un pays, il faut que tu vives. Alors, tu cherches un job. Donc, tu cherches une place où coucher, puis tu cherches un job.
Ouais.
Puis après ça, c'est l'école.
Ouais.
Après ça, c'est. Puis là, il faut que ça suive. Faut que
permis
ça suive.
De conduire. Puis là, il faut t'inscrire tes enfants à l'école.
Oui.
Puis t'as ta femme ou ton mari. Puis t'as peut-être ta mère ou ton beau-père. Puis là, t'as beaucoup de choses à régler. Mais là, du temps plein, donc ça serait aux frais de l'État, tout ça. Puis en plus, on répond pas vraiment à la question, qu'est-ce qui arrive si t'as pas le standard 8? Et est-ce qu'il faut le standard 8, 9, 10, 11, 12, des standards très élevés pour faire tous les jobs? Et c'est vraiment, là, c'est poussé très loin, ça. Parce que quand on y pense, ça veut dire qu'on mettrait, on paierait, on subventionnerait des personnes qui pourraient être en état de travailler en contexte de pénurie de main-d'œuvre en plus de ça. Mais non, restez à l'école pendant un an et demi, pendant qu'on en a besoin. Puis aussi, si vous échouez, qu'est-ce qui arrive? On vous met dehors après un an et demi? Ça n'a pas de sens. Alors, il y a vraiment ici quelque chose qui doit...
Mais tu sais, les Québécois, on a tellement eu toujours une batte pour notre langue dans un désert anglophone.
Exact.
Que ça nous donne ces réflexes-là de nous protéger. On fait peut-être plus attention que les Français, qui, eux autres, ne se gênent pas pour faire leur footing. Et puis,
ça, je comprends ça. Je comprends ça.
Ils n'ont pas besoin de se protéger, eux autres, leur Français n'est pas menacé. Fait que, je peux comprendre tous les points de vue, mais c'est vrai, il faut que ça soit applicable aussi après. Au bout du téléphone, on a Amanda. Bonjour, Amanda.
Oui, bonjour, ça va bien?
Ça va bien, vous?
Oui, moi, personnellement, je trouve que c'est... extrêmement important que tous les immigrants parlent français, non seulement ça, mais leurs enfants. Moi, personnellement, je suis un enfant de la loi 101. Là. Moi, je suis immigrante. Je suis arrivée ici à l'âge de 5 ans. Je parle très bien français. Puis, j'arrive justement d'une garderie pour inscrire mon fils. Personne ne parle français. C'est une garderie subventionnée. Là, je dis aux éducatrices, bonjour. Personne ne me répond. Ils parlent tous anglais. C'est des nouveaux immigrants. C'est à Montréal, évidemment. Puis moi, ça me choque. Je veux dire, moi, j'étais obligée de l'apprendre le français, puis ça a été tout le temps en français mon parcours. Puis voir des nouveaux immigrants arriver, puis pas vouloir le parler le français, je trouve comme...
Oui, on a peut-être deux volets ici, Amanda. C'est-à-dire que, d'un, c'est vrai que les nouveaux arrivants l'ont pas toujours appris, mais c'est vrai que leurs enfants l'ont tous appris parce qu'ils vont à l'école. Alors, de nos côtés, on finance beaucoup d'écoles privées.
Moi, j'en connais beaucoup des enfants d'Italiens de la 4e génération, et ils parlent ni français... Ils parlent ni anglais.
4e génération?
Ah oui, les Italiens, la 4e génération, leur français n'est pas bon, leur anglais n'est pas bon. Parce qu'ils parlent anglais à la maison exclusivement. Ils arrivent à l'école, ils parlent français, ils mélangent le français et l'anglais. Ils sont comme à cheval sur les deux, fait que le français n'est pas bon. Les Français, quand ils viennent de chez nous, de France, ils rient de nous parce qu'ils disent le français, ils ne parlent pas français. Et les Ontariens, ils rient de nous. Parce que l'anglais, il n'est pas bon. Fait que on parle ni français, ni anglais. Il faut choisir. C'est tout le monde en anglais ou tout le monde en français.
OK. Je comprends votre point de vue. On accepte ça. Merci, Amanda. On a Philippe. Salut, Philippe.
Salut, Dan. Moi, je trouve que c'est une fois rendu là, si on force les immigrants à prendre un test de français, on devrait peut-être forcer les Québécois à prendre un test de français. Puis les 50% qui ne passeront pas, on peut renvoyer en France. Mais, tu sais, à un moment donné, là, avec la loi pour les signes religieux, on vient là, de faire un acte de pouvoir très, très grand pour opprimer des gens, des fois, qui sont plus faibles. Je pense qu'on peut leur donner un break pour une couple d'années, selon moi. Là.
Mm-hmm. C'est tout relié, ça. C'est parce que c'est là, on envoie un signal que là, vous arrivez... Moi, j'ai fait le tour du Québec quand j'étais ministre de l'Immigration sur la question de la pénurie de main-d'œuvre. J'ai parlé à des entrepreneurs, des femmes, des hommes qui ont besoin de travailleurs puis qui comprennent que l'immigration est une solution. Puis ils disent, ils vont apprendre en travaillant. Ils vont apprendre sur la job. Puis l'affaire, moi, ce que je comprends pas dans ce réflexe-là de rendre obligatoire et de mettre les gens à temps plein à l'école... C'est que pendant ce temps-là, ils travaillent pas. Puis on en a besoin. Puis si on a cette exigence additionnelle-là, savez-vous où ils vont aller, les gens? Ailleurs. Puis on va avoir encore des plus gros problèmes. Déjà que la loi 21 envoie un très mauvais message à l'international, là, maintenant, on va avoir cet autre problème-là de pénurie de main-d'œuvre qui va être accentué par le fait que les gens doivent rester à l'école un an ou deux.
Peut-être être en partiel à ce moment-là.
On le fait déjà, ça. On l'offre déjà.
Non, on parle obligatoire.
Là, on parle obligatoire, mais à temps partiel, il y a déjà des organismes de francisation, on offre. Puis là,
oui, mais ils ne sont pas obligatoires.
Ils ne sont pas obligatoires. Ça, ils ne sont pas obligatoires.
C'est toute une autre question de rendre ça obligatoire.
Mais c'est comme tu l'as dit, obligatoire veut dire, si tu échoues, qu'il y a une conséquence.
Oui. Merci, Philippe. Ronald. Salut, oui. Ronald.
Écoute, moi, ça va bien, Dan?
Ça va bien, toi?
Je suis fils d'une cinquième génération d'Italiens.
Okay.
Nous, mon grand-père, quand il est arrivé ici, c'est en...
Pas de l'air d'avoir de problème de français du tout. Là. Tu parles très, très bien.
Pas du tout, parce qu'écoute, on est rendu à la cinquième génération, comme je te dis. Puis mon grand-père a accepté de parler le français quand il est arrivé. C'est important, la majorité était francophone. Puis c'est ça le problème avec les nouveaux arrivants, c'est qu'ils ne s'aperçoivent pas que la majorité en entoure d'eux autres est francophone. Ils pensent plutôt à tout ce qui est extérieur, qui est anglophone. Puis j'aimerais dire à M. Hurtel d'arrêter de faire peur aussi au monde avec l'international. C'est important pour nous, le français. Si on veut survivre au Québec, là, c'est important que ça bouge, ces histoires-là. Qu'une fois pour toutes, qu'on se donne des bonnes lois puis qu'on oblige le monde à l'apprendre s'ils ne veulent pas l'apprendre. Sinon, ben, qu'ils acquittent la province, c'est tout. On en aura d'autres, des migrants. C'est pas les immigrants qui vont manquer, monsieur. Et, tout le monde en cherche pour l'avenir.
Oui, on est dans un contexte de plein emploi en ce moment-là. Fait que là, ça prend du monde tout de suite. Il y a des compagnies qui ne peuvent pas remplir leurs commandes, là. Les commandes ne sont pas capables de les faire. Fait que ça presse un peu. Moi, il me semble que je serais plus pressé de combler ça. Il y a des gens qui ont besoin d'engager, des compagnies qui ont besoin d'engager des travailleurs, puis des travailleurs qui ont besoin de travailler, on peut commencer par ça.
Apprendre l'anglais, puis à un moment donné, on va se faire assimiler. C'est ça qu'on se bat depuis je ne sais pas combien d'années au Québec.
Oui, on est en danger de se faire assimiler par les Anglais, par l'Italien, moi, je ne me sens pas très, très assimilé par les Italiens.
Non, pas du tout. L'Italien, je ne pense pas. Là. Je pense que c'est une des plupart des personnes qui parlent quand même.
Mais je comprends. C'est une des grandes luttes du Québec de ne pas se faire assimiler puis de pouvoir continuer. C'est son identité, la langue française. Je vous remercie beaucoup, Ronald. Mamadou, bonjour.
Salut, ça va bien?
Ça va bien, vous?
Oui, moi, j'aimerais dire quelque chose de simple. Il s'en prend toujours, on parle des immigrants, parle français. J'aimerais qu'on simplifie ça. Pourquoi vous ne faites pas les enfants, vous fermez les frontières? Si on n'est pas capable de faire des enfants pour nos affaires, pourquoi on s'en prend aux autres?
Je comprends pas. Vous dites on ne fait pas assez d'enfants?
Pourquoi on a besoin d'immigrants? Parce qu'on n'est pas capable de faire des enfants pour nous prendre le relève.
Ça, c'est vrai. Il y a un enjeu démographique dans le fait qu'on a besoin d'immigration. Ça, c'est sûr que l'enjeu démographique fait partie de l'équation. Ça, c'est vrai.
Moi, je suis un immigrant, OK? J'ai 3 enfants.
Oui.
Quand je parle aux amis au travail, ils me disent « T'es malade? Comment tu as 3 enfants? Comment tu vas faire? » 2 jours après, ils me disent « Les immigrants, c'est ça et ça et ça. » Si on veut les gens qui travaillent, si on n'est pas capable de faire nos jobs nous-mêmes, là, on cherche ailleurs, là. On doit laisser les gens tranquilles. Si on a besoin de ta tête, on n'a pas besoin de tes épaules, il y a quelque chose qui ne marche pas.
OK.
On peut pas se complètement ici. Là. Faites les enfants fermer les frontières, ça va aller.
Merci beaucoup, Mamadou. David, honnêtement, fermer les frontières, non.
Ben non, on peut pas fermer les frontières. L'enjeu démographique est une des causes. Il y a 2 raisons pour lesquelles on est en pénurie de main-d'œuvre. Le fait est qu'en effet, au niveau démographique, le Québec n'a pas su renouveler sa population au cours des dernières années, puis toutes les projections indiquent qu'on le fera pas bientôt. Mais aussi, il y a du développement économique qui se poursuit. Là. Alors, on a des besoins maintenant. Faire des enfants, il faut les faire, mais après ça, ils vont être prêts dans 18 ans. Alors, c'est tout de suite qu'on a un enjeu. Puis l'immigration va combler à peu près 20% de nos besoins en main d'œuvre au cours des 10 prochaines années.
Alors, reste, comme Mamadou dit, il va falloir faire des enfants.
Non, mais c'est la formation, c'est la technologie, c'est ramener par exemple, ce qu'on appelle des personnes expérimentées maintenant, les ramener au marché du travail. Il y a un programme de crédit d'impôt maintenant pour les 60 à 64 ans pour bénéficier de l'expérience des personnes expérimentées. Alors, il y a plusieurs types de solutions. La robotisation va en être une, mais il y a certains jobs là, qu'on ne peut pas là, remplacer par des robots. Fait qu'on va avoir besoin de l'immigration, mais là, dans le contexte actuel, c'est pas de dire oui, on est assimilé, oui, on ne veut plus défendre le français. C'est pas ça le point. Le point, c'est que obligé des cours de français pendant un an et demi. Ça ouvre une boîte de Pandore et je crois pas que c'est réfléchi à fond, là, ce type de solution-là. Oui, il faut mieux franciser, mais on peut pas le faire comme tu disais. Faisons-le de façon concomitante, là, en même temps que les gens travaillent.
OK. On est dans la chronique de David Hortel qui se poursuit. La commission scolaire English Montreal s'est vue refuser son injonction temporaire. Alors, pour avoir une injonction temporaire, il faut prouver des dommages immédiats, dangereux, tout de suite, qui nous affectent. Son injonction temporaire de 10 jours pour bloquer le transfert des deux écoles au réseau francophone. Je vous garantis que c'est pas fini, ça. Ça va aller en appel, etc., etc. C'est le sujet de la prochaine chronique de notre ami David Hurtel, tout de suite après la pause.
Drainville PM. Commentaire. Voici David Hurtel.
Alors, la commission scolaire English Montreal s'est vu refuser son injonction temporaire de 10 jours pour bloquer le transfert de deux écoles au réseau francophone. Notre journaliste de Cogeco va nous en faire une lecture et un résumé, Annie Guillemette. Salut Annie.
Bonjour Dan.
Oui, je me permets une petite exception. Bonne fête Annie.
Merci.
Bon.
Exception acceptée. Mais je sais que vous ne voulez pas que je vous en fasse la lecture de cette décision-là.
Ben, toute la lecture, je ne sais pas, là, mais on...
85 paragraphes, mais je vais vous le résumer avec grand, grand plaisir. Effectivement, la commission scolaire avait demandé une injonction interlocutoire parce que Québec avait décidé qu'on allait de l'avant, avait en fait ordonné à English Montréal de céder deux écoles dans le quartier de Saint-Léonard parce que, vous le savez, on a d'énormes problèmes d'espace là-bas. Juste pour la rentrée 2019-2020, il y a plus de 3000 élèves à qui il faut trouver un pupitre et une chaise dans un local digne de ce nom. C'est comme ça qu'on dit ça dans la réaction du ministère de l'Éducation cet après-midi. Donc, c'est très difficile à gérer. Du côté des anglophones, eh bien, transférer, en fait, céder deux écoles, vider deux écoles, ça signifie le transfert d'à peu près 500 élèves. Donc, c'est différent au niveau des préjudices qui seront causés et c'est en grande partie pour ça que la Cour supérieure a décidé de rejeter la requête de English Montreal. Donc là, c'était l'espèce de dernière étape d'aller devant les tribunaux pour bloquer la décision de Québec. Bon, bien sûr, à Québec, on se réjouit. On demande à la commission scolaire maintenant de commencer son travail administratif pour céder les deux établissements à la commission scolaire Pointe-de-l'Île, là, le réseau francophone là-bas. Du côté de la commission scolaire English Montréal, cependant, ben on voit pas ça du même œil, mais pas du tout. On attend la réaction dans les prochaines minutes là, officielle de la présidente Angela Mankini, sauf que déjà, on nous a envoyé un communiqué, bien sûr, on se dit déçu, et surtout, on dit qu'on étudie toutes les avenues possibles.
Oui, ça veut dire qu'on appelle, c'est clair, ça.
Ben c'est exactement ça. Pas besoin de lire beaucoup, beaucoup entre les lignes pour savoir qu'il va y avoir une autre étape, probablement judiciaire encore une fois. Donc, on va suivre ça. Puis on aura, au cours de nos prochains bulletins, là, la réaction officielle de la présidente de la commission scolaire. Du côté de Québec, on nous a dit qu'on émettait un simple communiqué par respect pour le travail devant les tribunaux. Donc, on va continuer à suivre ça. Ça évoque beaucoup, beaucoup de passion lorsqu'on touche aux droits constitutionnels. D'ailleurs, parce que c'est ça qui est évoqué aussi. Et la Cour supérieure ne dit pas que les anglophones ne subiront pas de préjudice en cédant leurs écoles, que les enfants anglophones ne seront pas touchés par ça. Sauf que lorsqu'on regarde qui subit les pires préjudices, eh bien, jusqu'à maintenant, c'est du côté des Franco que ça se passe. Donc, c'est là qu'on en est dans ce débat-là qui est loin d'être terminé.
C'est très loin d'être terminé. Ben, Annie, je te souhaite un joyeux anniversaire. Merci beaucoup.
Merci. À la prochaine, au revoir.
À la prochaine. Merci. Dites, je voudrais entendre tout le monde, en plus de David, que j'aime beaucoup écouter, mais on peut prendre les appels de tout le monde aussi au 514-790-9850. À l'extérieur de la ville, c'est 1-866-790-9850 ou par courriel à danacommercial985fm.ca. Alors, la question, êtes-vous d'accord avec cette décision? Auriez-vous aimé voir la cohabitation entre les deux commissions scolaires? Ben, appelez-nous, voilà. À qu'est-ce que t'en penses, toi, David?
C'est
évidemment,
loin
ça sent
d'être
l'appel
terminé.
De suite,
oh, ouais, ben, c'est même pas un appel, hein. C'est même, c'est parce que là, c'est une injonction provisoire, tu sais, pour une urgence. Le juge a dit, il n'y a pas d'urgence.
10 jours.
pour dire il n'y a pas d'urgence. Donc, vous ne m'avez pas démontré, English Montreal School Board, qu'il y avait une urgence. Sauf que vous, vous m'avez quand même démontré qu'il y avait une question sérieuse en droit. Donc, la question sérieuse en droit, là, c'est une violation de la Charte des droits et libertés de la personne, là, l'article 23, qui protège les droits des minorités linguistiques, tant la minorité anglophone au Québec que les minorités francophones dans le reste du Canada. Puis d'ailleurs, hein, les groupes de minorités francophones dans le reste du Canada appuyaient le recours en injonction de ce matin du English Montreal School Board. Hein? C'est quelque chose quand même d'important à noter. Alors là, le juge a dit aussi dans son jugement qu'il trouvait que le gouvernement n'avait pas fait assez d'efforts pour consulter English Montreal School Board. Donc, un autre élément très important, parce que ça pourrait, un autre tribunal pourrait, dans l'évaluation de cette preuve-là, considérer cet élément-là comme un élément très sérieux. Alors, il y a quand même... Oui,
mais
là,
je veux dire, s'il demande une injonction provisoire, c'est ouais. une injonction d'urgence. On peut se douter que si on les avait consultés, on aurait eu un petit peu le même avis, il me semble.
Peut-être pas, parce que là, sur la question de droit, parce qu'une injonction, ça sera ultimement une injonction qu'on appelle permanente. Alors, il va y avoir d'autres auditions devant le juge.
Trois sortes d'injonctions.
Ouais, c'est ça. Là, on est dans la provisoire. Là, on est dans, après ça, l'interlocutoire dite plus temporaire. Puis là, après ça, on va avoir l'injonction permanente. Alors, il reste théoriquement deux autres auditions devant le juge pour juger ce conflit-là en Cour supérieure. Alors, il est possible
Bref,
qu'au niveau de la question de droit...
Bref, nos enfants ne sont pas encore en classe, là.
Non, puis c'est ça que ça va prendre. Ça va prendre encore du temps. Mais là, le English Montreal School Board va être obligé de se préparer pour la rentrée scolaire quand même. Et là, tant qu'il n'y a pas de jugement à leur faveur, faut qu'ils avancent.
Oui, mais ils ont des classes vides.
Exactement.
Ils ont trop d'élèves.
Mais l'idée qui avait été suggérée, c'est cohabitation. Pourquoi on ne regarde pas la cohabitation? C'est ça la question.
J'aime toujours mieux quand on réussit à s'arranger plutôt que de se taper sa gueule.
C'est sûr que c'est futile parce qu'à la fin de la journée, c'est qui paye pour ce litige-là? C'est tous nous autres?
Collectivement. Ouais. On a Daniel au bout du fil. Salut, Daniel.
Salut, monsieur.
Salut.
Moi, j'ai une question.
Oui.
Les écoles, ça appartient pas au gouvernement, ça?
C'est... ben oui, mais il y a des commissions scolaires aussi.
C'est les commissions scolaires qui les administrent.
Ouais, mais... OK. Puis les commissions scolaires, c'est pas payé par le gouvernement, ça?
C'est payé par nos taxes scolaires, par vos taxes scolaires, monsieur.
Oui, directement.
Ben, indirectement, mais c'est juste... Pourquoi ça veut dire que c'est les commissions scolaires qui décident des écoles qui appartiennent au peuple? Si on fait les études, on a besoin de deux écoles. Bon, les princes écoles, ça finit là, non?
Bien, légalement, ça a l'air que non. Il y a un article dans la Charte des droits que David... là, c'est une question de droit. Là, on n'est pas en train de vous dire si on est pour ou contre. Là. J'aimerais bien qu'on rentre nos enfants, qu'il y ait des classes partout, puis qu'on puisse rentrer tout de suite, puis apprendre tous les moyens pour. Mais il y a quand même... On fonctionne à l'intérieur des lois ou en dehors. Faut faire un choix à un moment donné. Mais les lois, en ce moment, nous permettent pas... de faire ce qu'on veut, puis c'est pour ça que ça se retrouve devant un juge. Le juge, il n'a pas tranché sur le fond, là. Il a juste tranché sur l'urgence de la chose dans les 10 jours. Il dit que c'est pas urgent dans les 10 jours. C'est tout ce qu'il a dit. Le reste, il va falloir que ça se règle autrement, mais ça va se régler devant un juge d'une façon ou d'une autre, ça, c'est certain, ça. Chaque décision peut être portée en appel. On n'est même pas en cours encore. Ça, c'était juste pour rejeter l'injonction provisoire. Après ça, on est en cours. Après ça, il y a cours d'appel. Après ça, il y a la Cour suprême. Alors, la justice peut être et très loin, puis il va y avoir des groupes de pression qui vont appuyer d'un bord puis de l'autre. Là.
Toute cette histoire-là, ça va coûter combien aux Québécois, ça?
Une fortune, monsieur. On va tout payer ça de nos poches.
Oui, oui, oui. Des écoles, c'est nous autres qui payent l'entretien, puis qui payent les bâtis.
Oui, oui.
Bonne fin d'après-midi.
Merci beaucoup. Salut, Alex.
Oui, salut Dan. En passant, félicitations pour ton émission. J'aime vraiment ce que tu apportes depuis que tu es rendu là.
Ah, ben, t'es bien fait. Merci.
Le point, je vous l'ai donné un peu dans le fond, parce que comme je disais, j'ai rien personnellement contre anglais-français. Je travaille au gouvernement, je travaille dans les deux langues. Mais je comprends un peu, tu sais, la commission scolaire anglophone parlait d'une cohabitation. Je comprends que ça coûterait probablement plus cher que juste de transférer l'école. Mais un peu dans la même suite d'un faux que l'interlocuteur disait avant. Je comprends pas moi non plus, ces édifices-là sont gouvernementaux. Puis dans la campagne électorale, le gouvernement parlait de peut-être fermer les commissions scolaires pour ramener les pouvoirs, puis pour mieux, après ça, comme répartir, parce que de toute façon, avec les coups et les explosions de tout ce qu'il y avait, je ne sais pas si ça serait peut-être une petite lumière qui serait allumée pour dire que ça serait peut-être le chemin à aller suivre, parce que je comprends pas, moi, qu'il y a une guerre comme anglo-franco, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que j'essaie de dire, mais je sais pas trop comment dire autrement, qui est en train de se dessiner pour l'association d'un bâtiment quand leurs classes sont vides. Là, je trouve ça, c'est un peu... ça dépasse un peu l'entendement, selon moi. Là.
Je comprends. David, qui t'en dit?
Ben, non, c'est sûr que de l'expérience, c'est difficile à comprendre. Ben oui, il y a une surpopulation du côté francophone, il y a des écoles anglophones qui sont vides, sauf que dans notre système, puis le fait est, c'est vrai que le gouvernement Legault, longtemps, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, la CAQ disait, on va abolir les commissions scolaires, on va les abolir, mais ils sont pas abolis au moment où on se parle. Alors, c'est les commissions scolaires qui administrent, puis veut pas, on est administré, tu sais, dans le temps, là, c'était religieux, hein, les commissions scolaires protestantes, puis les commissions scolaires catholiques. Là, maintenant, on a un système basé sur la langue. Pourquoi? Parce que la Charte canadienne des droits et libertés protège les droits des minorités linguistiques et donc les commissions scolaires des minorités linguistiques, que ce soit les francophones à l'extérieur du Québec ou les anglophones ici au Québec, protègent et administrent leurs propres écoles. Alors là, c'est de dire, est-ce que vous êtes en train de vous mettre les mains dans un droit fondamental de protection de minorités linguistiques en nous forçant à mettre des élèves francophones dans nos écoles? C'est un peu ça la vraie question. Là. Ouais, mais la logique, je comprends que ça affronte la logique. Là, parce que là, il y a une surpopulation, il faut trouver des solutions.
C'est pas la première fois que la logique affronte le système de justice.
C'est pas la dernière non plus.
Merci beaucoup. On a Mario avec nous. Salut, Mario.
Oui, bonjour, Dan.
Bonjour.
Moi, je me questionne, oui, il y a une question linguistique, mais en même temps, si une commission scolaire envoie 500 élèves dans une autre commission scolaire, les 500 qui quittent cette commission scolaire-là, il y a un trou dans le revenu de 500 élèves.
C'est sûr.
Oui.
C'est sûr. Fait que c'est pas juste un débat linguistique, c'est un débat aussi au niveau de l'argent, parce que chaque élève... Il y a un quota qui est donné à la commission scolaire. Fait que si j'envoie 500 élèves dans une autre commission scolaire, je viens de perdre 500 fois le montant qui m'est accordé.
C'est sûr. Puis c'est toute la question d'entretien des immeubles puis le budget total. C'est sûr que les commissions scolaires vont ensuite, selon le nombre de leurs élèves, aller chercher de l'argent équivalent du ministère de l'Éducation. C'est sûr.
Absolument. Fait que quand on parle de préserver des droits, là, moi, je pense que c'est plus une question, encore une fois. Malheureusement, c'est une question de cash. Puis c'est du gros cash, là.
Oui, puis c'est aussi une question de deux communautés qui s'affrontent depuis des siècles aussi. Ça finit toujours par retentir, ça. Merci beaucoup. On doit aller à la pause. Au retour, qu'est-ce que l'homme moderne? Ça semble, je ne sais pas si on regarde notre premier ministre Justin Trudeau, ça semble être un homme qui s'habille selon les coutumes du pays, mais surtout un homme sensible qui pleure après la pause.